j'ai envie de titrer mon intervention « Libéralisme et non-droit » et de montrer comment le non-droit et le refus de la loi est au cœur même d'une mentalité que nous partageons tous plus ou moins, hein, quoi que nous le voulions. Alors, oui, vous dites que mon livre s'appelle « Le complexe d'Ubu ». Alors, pourquoi Ubu, déjà? Je crois que c'est quand même important, c'est un personnage important qui a à voir avec, sans doute, les paradis fiscaux et sans doute le libéralisme. Vous savez que c'est un personnage qui date de la fin du 19e siècle, hein, fait par Jarry. J'en ai apporté une figure, là, hein, je ne sais pas si vous connaissez ce Ubu, hein. Il a une gidouille, un croc à finances, et sur son ventre, il y a le dessin d'un intestin, et son juron favori, c'est merdre. Et tout ça, je crois, a un rapport avec ce que je vais vous dire maintenant. Donc, ce que j'entends par libéralisme, c'est pas le free market à l'anglo-saxonne, c'est quelque chose de plus global. C'est-à-dire un système de valeurs et de représentations qui nous donne des réponses pour vivre et pour agir. Donc, j'en parlerai plutôt comme d'une vision de l'homme. Donc, je dirais que je me situe plutôt là dans ce que je dis au niveau de l'économie psychique, plutôt qu'à celui de l'économie des biens. Mais il me semble qu'il existe des liens entre l'économie psychique, je dirais comment on jouit dans le régime libéral, et puis comment on jouit dans le régime libéral. Et j'avancerai pour ça une notion qui peut paraître bizarre, mais que je vais essayer d'expliquer, qui est celle de la névrose collective. Je vais essayer de vous décrire une névrose collective libérale qui permet peut-être de comprendre un certain nombre de choses. Alors pour ça, commençons peut-être par dire ou rappeler qu'est-ce que c'est qu'une névrose individuelle, le mot névrose étant pris dans un sens très général. Je pense que moi, comme vous, sommes pour le au mieux névrosés. C'est pas dans un sens, je dirais, pathologique que j'emploie le mot. Donc je dirais qu'une névrose, c'est un équilibre plus ou moins bon, on peut dire plus ou moins économique, en ce qu'il engendre plus ou moins de souffrance. Alors un compromis entre quoi? Eh bien, entre nos pulsions, nos désirs, d'une part, et puis entre les nécessités de la réalité et les exigences de la loi et de la morale. Donc on trouve chacun une façon de bricoler quelque chose qui permette d'une part de satisfaire nos désirs et puis d'autre part d'être un peu dans la réalité et puis être plus ou moins dans le respect des lois. Alors, une névrose, finalement, on pourrait dire qu'au niveau individuel, ça se traduit par un système d'idéaux et d'interdits personnels qui nous permettent de résoudre donc les conflits de base. Et vous savez qu'il y a deux conflits de base, bon, que je redonne rapidement. Le premier, il est du côté de l'amour. Tous les anthropologues en ont parlé, savoir qu'on sait que l'interdit de l'inceste, il se retrouve dans toutes les cultures. Donc, déjà, il y a un problème à traiter, c'est le fait que l'inceste, c'est pas possible. Et puis, il y a aussi un autre problème à traiter. C'est le fait que, du côté de l'agressivité, celui-là, c'est que, on peut pas tuer n'importe qui, n'importe quand on veut. Le parricide, c'est pas possible non plus. Et on trouvera bien sûr autour de ces deux figures ce qu'il y a dans l'Oedipe, c'est-à-dire l'inceste et le parricide. Alors, ce que je décris là à niveau individuel, ça se retrouve, je dirais, au niveau de toute culture, que le mot étant pris au sens général. C'est-à-dire que toute culture, c'est aussi un système d'idéaux et de lois qui permettent aux individus que nous sommes de nous structurer psychiquement, à savoir que depuis notre naissance, dans notre façon de nous structurer, qu'est-ce qu'on fait? On intègre donc ce qui est au niveau d'une névrose collective représentée par la culture, par l'intermédiaire d'un certain nombre de personnes, comme bien sûr nos parents. Alors, quand la névrose collective est bonne, ce qu'on intègre nous permet de fonctionner d'une façon relativement économique, mais quand la névrose collective est mauvaise, on se structure bizarrement. On pourrait dire comme ça que le nazisme était une névrose collective. Ça permettait à des gens de se structurer d'une certaine manière, c'est-à-dire d'être bourreaux tout à fait normalement, par exemple. On pourrait dire des choses de ce genre à propos du stalinisme. D'où la question, qu'est-ce que la névrose collective libérale et qu'est-ce qu'elle offre comme symptôme au niveau collectif, mais aussi au niveau individuel. Alors, pour essayer de préciser les choses, je voudrais faire un petit détour, excusez-moi, par ce qui a précédé ce que j'appelle la névrose collective libérale, et qui est la névrose collective chrétienne. pourquoi faire ce détour, c'est que le libéralisme s'est construit vraiment contre cette névrose collective chrétienne, que je décrirai très très rapidement parce que c'est pas notre sujet, hein. Mais déjà, le mythe de la Bible nous donne des points clés et fondamentaux. On a un père qui est tout puissant. Alors pourquoi il est tout puissant? C'est parce qu'il refuse d'être sexué, hein. Il est homme et femme à la fois puisqu'il est capable de faire des enfants tout seul, hein. Il fait Adam sans mère. Il est dans la toute puissance. Et donc il fait la loi. La deuxième aspect clé qu'on retrouve, c'est la soumission homosexuelle du fils au père. Yahvé fait des choses dans le corps d'Adam, avec ça, il lui fait un enfant. Hein, c'est comme ça, c'est ce que nous dit le mythe. Hein. Et puis par ailleurs, dans tout ça, le féminin est complètement forclos. Ça se retrouve au niveau de l'organisation sociale. Vous avez au ciel un père symbolique. Vous avez sur le trône un père social, c'est le roi. Quand tu lui auras coupé la tête, l'État reprendra un peu la même fonction que celle du roi, puis on a le père dans les familles, hein, organisation patriarcale pure et dure. Alors, qu'est-ce que ça donne au niveau social, donc aussi? Bah, c'est une soumission du fils au père. Le fils, bah, ça va être l'esclave, ça sera le serf, ça sera l'ouvrier, mais il est toujours symboliquement en position de fils, soumis au maître, au seigneur, au patron, hein. Donc, on a vraiment là une organisation qui symboliquement, à son sens. Et c'est contre ça que qu'on voit apparaître, se développer le libéralisme, qu'on pourrait dire contre les abus du père, contre les lois qui sont les siennes, et donc contre un père privateur de liberté, mais qui empêche aussi l'acquisition des biens matériels. À remarquer que très vite, et puis après tout c'est une question qu'on peut se poser, libéralisme et capitalisme sont noués ensemble. Et quand je parle du libéralisme là, je parle d'un libéralisme capitaliste, mais on pourrait peut-être imaginer autre chose. Alors, je vais arriver à mon sujet, en sachant que là je parle sur des périodes très longues, hein, je suis pas dans des choses à court terme, puisque on peut dire que c'est au moment où le Père au ciel commence à s'effondrer, au moment des guerres de religion, qu'on voit apparaître les textes libéraux, hein, c'est-à-dire 17e siècle. Hein. Mais ça reste au niveau des idées, ça s'ancre dans la réalité sociale en France à partir de 1789, quand on coupe la tête du Père social. Et là, le libéralisme s'intègre dans la société. Deux autres dates comme ça, qui me paraissent des dates repères. 1905, c'est la séparation de l'Église et de l'État. Et on peut dire que jusqu'à l'heure, dans les thèmes libéraux sont plutôt syncrétiques. Il y a un mélange de valeurs chrétiennes et de valeurs libérales. Et puis 1990, je crois qu'on peut dire que 1990, c'est la mort de la religion en Occident. Dans notre Occident, c'est l'épanouissement du néolibéralisme, c'est-à-dire pour moi c'est l'épanouissement des thèses libérales qui apparaissent enfin dans leur pureté. Alors, le bonheur libéral, selon Adam Smith, on sait ce que c'est la jouissance paisible de ses biens, donc beaucoup de choses autour de l'argent et de la richesse. Et là je vais vous citer un petit texte de Freud sur ce qu'on constate toujours sur le divan, c'est qu'il y a un équivalent symbolique entre ce qui est de l'ordre de l'argent, de la finance, de la richesse, et une autre matière qui n'est pas financière, mais qui est excrémentielle, hein, c'est-à-dire qu'il y a une équivalence symbolique entre l'excrément et l'argent. Et c'est ce que dit Freud, par exemple, dans cette phrase, où il explique que les relations entre les complexes apparemment si disparates de l'intérêt pour l'argent et de la défécation se manifestent à profusion. Tout médecin qui a pratiqué la psychanalyse sait bien que c'est en empruntant cette voie qu'on peut faire disparaître les cas les plus opiniâtres et les plus durables de ce qu'on appelle constipation. Il remarque également que c'est au moment, vers disons 3-4 ans, au moment où l'enfant désinvestit les plaisirs de la défécation, qu'il se met à s'intéresser à l'argent. Donc il y a un lien fort entre ces deux choses-là. C'est un lien quand même important à avoir en tête. Ça se retrouve dans tous les mythes. Hein, pensez simplement à l'âne d'Apulée, hein, qui produit des pièces d'or. Eh bien, c'est par l'anus qu'il les produit. La poule aux odeurs, etc. Enfin bon, il y a tout un corpus mythologique fabuleux sur le sujet qui vient bien confirmer la chose. Donc, on ne sera pas étonné de constater que la névrose collective libérale, c'est-à-dire qu'au centre de la jouissance libérale, qu'est-ce qu'on va retrouver? Des choses qu'on retrouve dans ce qu'on appelle en psychanalyse le stade sadique anal, et qui est une façon d'organiser notre érotisme, qu'on a tous connu, je dirais vers les 2-3 ans, hein, mais on en a tous gardé des petites fixations. Alors, Quels sont les traits de ce que j'appelais l'enfant anal libéral, hein, quels sont les traits du stade sadique anal? Alors d'une part déjà, et vous allez voir apparaître là beaucoup de choses que je vais retranscrire en termes d'idéaux libéraux après, mais on voit apparaître les points clés des idéaux libéraux. Alors l'enfant de l'analité, il devient grand, hein. Il a 2 ans, il a 3 ans, il est en train de grandir, et c'est vraiment quelque chose d'essentiel pour lui. Et autour de lui, il y a des géants qu'il estime maître du monde. Grandissant, lui aussi, il va devenir maître du monde. C'est-à-dire qu'il est mégalomane. Il est dans la toute-puissance. Il est dans une sorte d'impérialisme personnel, thème qu'on retrouvera dans le libéralisme. Il découvre la liberté. C'est le moment où l'enfant a une autonomie musculaire. Il peut faire marcher ses muscles, il peut se déplacer tout seul. Et dans tous les textes sur le libéralisme, la notion de liberté apparaît d'abord autour de la liberté du corps. Et c'est la liberté du corps que le jeune enfant découvre. Donc il intègre la notion de liberté. Mais liberté liée à la question de mégalomanie dont je vous parlais avant. Et donc il refuse, à cette époque-là, il refuse toute limitation, toute loi. Toute personne, c'est un adepte de l'insoumission radicale. Et toute personne qui s'oppose à lui, s'il en avait les moyens, il l'éliminerait, tout simplement. Et sans difficulté, puisque autrui, pour lui, ça n'a pas encore le sens que ça a pour nous, c'est pas un alter ego. Autrui, il sait pas ce que c'est. Il a pas repéré l'autre. Donc il peut être cruel en toute indifférence. Il peut exterminer l'autre, il peut l'ignorer. C'est même pas du sadisme, c'est de l'indifférence, quoi. Et c'est un thème aussi qu'on peut retrouver dans le libéralisme. Alors pour ce qui concerne l'érotisme anal lui-même, un des grands plaisirs, c'est celui de la rétention, de garder les matières. Et ce qui sera sublimé plus tard en goût pour les collections, et en goût pour la propriété d'objets divers, accumulés, gardés. Collectionner, c'est un plaisir, c'est le plaisir de la rétention anale qui se sublime ensuite. Il y a aussi le plaisir, bien sûr, de salir l'autre, de l'emmerder, comme on dit. Dans notre vocabulaire, on garde des aspects de cette chose-là, et éventuellement aussi de le dominer en le privant de quelque chose qui pourrait lui donner. Parce que l'excrément pour l'enfant, c'est la première découverte de. Enfin, c'est la construction de la notion de propriété, je dirais plutôt. C'est l'excrément, c'est quelque chose qui fait partie de son cœur, mais qui est déjà l'objet d'une transaction, parce que sa mère lui demande. Et c'est donc le premier commerce, et la première propriété se découvre autour de ça. Donc vous voyez que là, on voit bien qu'à travers tout ça, il y a beaucoup de thèmes qu'on retrouvera dans le libéralisme. Dernier point, il est pragmatique, l'enfant anal. Il ne pense pas, mais il agit. Il est dans le pragmatisme. Alors, bon, comment tout ça peut se traduire au niveau des idéaux du libéralisme? Bon, l'argent, bon, j'insiste pas là-dessus, puisque l'argent est vraiment le référent clé des idéaux libéraux. Autre point important, l'utilitarisme. C'est vrai, je suis dans les temps. Je reprendrai simplement un des premiers textes qui est d'un certain Bernard de Mandeville, redécouvert par Marx, un auteur qui a publié en 1714, vous voyez, c'est un peu vieux, La fable des abeilles, c'est un auteur anglais en fait, et où il pose déjà des choses essentielles qui sont déjà aussi importantes pour nos paradis fiscaux. Ce qu'il pose, c'est que l'orgueil, la vanité, le goût du luxe, la gourmandise, l'avidité, l'égoïsme, c'est ça qui fait marcher le commerce. À savoir qu'il tient ce propos paradoxal qu'on retrouvera ensuite, c'est que le vice individuel est à l'origine du bonheur collectif. Mais c'est ce qu'on retrouve dans la main invisible d'Adam Smith plus tard, et ce qu'on retrouve aussi chez des auteurs néolibéraux. Bon. Donc, et ça c'est vraiment essentiel, cette idée que si chacun est dans l'égoïsme absolu, et donc le refus de toutes les règles, de toutes les lois, si chacun poursuit son plaisir égoïste en dehors de toutes les lois, alors le bonheur collectif sera sur terre. Et c'est une des idées clés du libéralisme, ça. Donc c'est pas la morale qui doit encadrer l'économie, comme c'était au temps du christianisme. Je dirais c'est plutôt l'économie qui doit indiquer ce qui est bon et ce qui est mauvais, dans cette logique-là. Donc il s'agit de bâtir une morale sur la base de ces désirs égoïstes. Alors autre aspect des idéaux libéraux. L'individualisme, mais dans une version très mégalomaniaque. L'individu a toujours raison, rien ne doit s'opposer à son désir, pas plus qu'au désir des entreprises, on pourrait dire. Il est à l'origine de tout et redevable de rien. La société étant conçue comme un agrégat d'individus qui passe des contrats de gré à gré. C'est ça la conception qu'on a de la société dans le libéralisme. Avec une logique qui est quand même perverse, qui pointe, c'est que plutôt que de soumettre son désir à la loi, c'est mon désir qui va être la loi que je vais infliger aux autres. On est dans cette logique-là. Et la liberté là-dedans, aussi, la liberté c'est un des points clés du libéralisme, eh bien la liberté dans cette logique-là consiste à être au-dessus des lois, et à refuser toutes les lois du Père dont je vous parlais auparavant. C'est refuser toutes les lois. Et je vous citerai une petite phrase de Von Hayek, qui a été quand même inspirateur du néolibéralisme de Thatcher, par exemple. « Quand les actions d'un homme sont soumises à la volonté et sont au service des buts d'un autre, alors il n'y a pas de liberté. » Et ça peut se dire pour les entreprises également, tout ça. Donc l'homme libéral est au-dessus des lois, et son slogan pourrait être « Il est interdit d'interdire ». Voilà un beau slogan libéral que celui-là. « Il est interdit d'interdire ». Et ça va bien aussi avec nos thèmes des paradis fiscaux, tout ça. On est bien dans la même chose. Donc, haine contre l'État, énonciateur des lois, vive toutes les déréglementations possibles et imaginables. Haine contre la démocratie, parce que la démocratie, elle impose des lois, et elle fait une chose inique, elle redistribue les profits à tout le monde. Et comment un libéral pourrait accepter ça? C'est tout à fait inique. Il faut, et à la démocratie, en libéralisme, on préfère ce qu'on appelle la démarchie. C'est encore un terme développé par Von Hayek, qui est plutôt que le pouvoir du peuple, c'est le pouvoir sur le peuple. C'est de la plutocratie éclairée. Et on retrouve ça dans les textes de Von Hayek. Alors, dans cette logique-là, vous comprenez bien que les paradis fiscaux, ils ont tout à fait leur place. Alors, comment dépasser ces choses-là? Alors, je vois les choses dans le très long terme, bien sûr. J'ai trois points simplement. Comment dépasser le libéralisme? Déjà, peut-être qu'il faudrait découpler, je dirais, le libéralisme de l'analité capitaliste. Est-ce qu'on peut imaginer un libéralisme sans capitalisme? C'est une question. Deuxièmement, trouver ou retrouver le sens de l'autre. Le sens de l'autre, c'est finalement la démocratie, et dans notre parcours individuel, on apprend à être démocrate, nous aussi, d'une curieuse façon, c'est-à-dire que quand on a 4, 5 ans, on découvre qu'il n'y a pas un seul sexe, il y en a deux, il y a des garçons et des petites filles. Et à ce moment-là, on découvre donc qu'on n'est pas tout, et on doit donc, c'est ce qu'on appelle une castration, on n'est pas tout puissant, on ne peut pas être mégalomane, et on découvre que pour faire un enfant, parce que c'est au moment où on le découvre aussi, il faut passer par l'autre. Il faut passer par le désir de l'autre, on ne peut pas exister tout seul. Et je pense que la démocratie, c'est la même chose. C'est à partir du moment où on estime, en tant que groupe social, qu'il faut passer par un autre groupe social pour être fécond et pour que la collectivité existe, alors on est dans la démocratie. Et ça pourrait aussi se retrouver dans une logique nord-sud, ça aussi, bien sûr. Et puis alors, il me semble qu'il y a un travail à faire, mais ça c'est un travail de très longue haleine, à faire au niveau symbolique. On sait que les idéaux que je vous ai rapidement décrits, qui sont menteurs, qu'on est plutôt dans le règne de la perversité, qui ouvre la voie à toutes les transgressions. Et si toutes les transgressions sont permises, on en a pas mal parlé tout à l'heure, c'est parce que la loi est faible et le politique a peu de moyens. Donc, ce qui permet de dire, par exemple, que la concurrence serait dans la nature des choses. Vous avez certains armateurs qui expliquent qu'ils ne peuvent pas faire autrement que de mettre leur siège dans les paradis fiscaux. C'est la dure loi de la concurrence qui oblige. Sinon, ils pourraient pas travailler avec des rafios complètement rouillés. Ils pourraient pas sous-payer des gens non professionnels pour conduire leur bateau. Donc ils sont obligés de passer par les paradis fiscaux. C'est une obligation pour eux, les pauvres. Donc il y a un travail de longue haleine, à mon avis, qui est de fonder, je dirais, une vérité, un idéal, qui permette d'asseoir une justice et de faire exercer une loi. Mais ça, c'est très vague, c'est très, très général, très global. Je crois que c'est le travail de tous et de tous les instants. Pour conclure, quelques mots pour passer à quelque chose d'un peu plus concret. Alors, le pouvoir en régime libéral, comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'on peut en dire? Alors d'abord, bien sûr, je crois qu'il est d'abord économique. Le pouvoir, il n'est pas, hélas, beaucoup chez les politiques aujourd'hui. Et l'État, comme représentant des lois collectives, eh bien, effectivement, il est vécu comme un tyran par les vrais pouvoirs qui sont les pouvoirs politiques. Il y a un refus du pouvoir politique. Il y a même une revendication de la société civile, même par ces décideurs-là. Parce que dans la société civile, les décideurs économiques, ils sont comme un poisson dans l'eau. Ils peuvent la gérer comme ils veulent, comme ils essaient de faire aussi avec les politiques, me semble-t-il. Donc c'est les stratégies du pouvoir économique, à mon avis. Alors là, on l'a vu beaucoup aujourd'hui. Première stratégie, c'est l'occultation. Où est le pouvoir? Qui décide de quoi? C'est bien difficile à repérer. Donc il y a une stratégie d'occultation qui me paraît très importante. Une deuxième stratégie, c'est l'infiltration du pouvoir politique, la subversion. Peut-être que l'intervention ensuite d'Alain Deneau va être une illustration de ça. La famille Bush en est un bel exemple. Et puis aussi le développement des zones de hors-la-loi, des zones hors-la-loi. Alors, il y a une première zone hors-la-loi à laquelle on pense pas souvent, mais c'est l'entreprise. Parce que l'entreprise, elle est pas sous la loi démocratique, sous la loi collective. Elle est gérée par la loi du propriétaire. Et le management, c'est quoi en fait le management? C'est la façon de faire accepter aux personnes d'une entreprise la volonté du propriétaire. Alors c'est quand même il y a une dimension hors la loi dans la gestion des entreprises. Et puis il y a des zones policières de non-droit. On a beaucoup parlé de Guantanamo ces derniers temps, mais chez nous à Orly ou à Roissy, vous savez que les zones d'accueil des exilés dans les aéroports français sont aussi des zones de non-droit, c'est-à-dire que la justice n'a pas le droit d'y entrer. Donc il y a toute une politique du hors-la-loi qui est important, et bien sûr il y a des zones aussi économiques, des zones franches, des paradis fiscaux, des lieux offshore, que moi j'ai envie de donner cette définition comme conclusion, c'est que je crois que là se réalise, me semble-t-il, l'idéal du libre-échange, qui est enfin réalisé offshore, et je trouve qu'on a là vraiment une incarnation des idéaux libéraux profonds dans les paradis fiscaux. Voilà.